bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Ok, salut.
Avec Lélia Cadeau-Boudéli, Agnès Hurstel,
bonjour.
Daniel Morin,
bonjour Agnès,
Albert Ragou,
bonjour
Albert, Tanguy Pastureau et nos invités Ryan Bozzetti et Ladissa Chola.
Salut,
bonjour.
Bonjour.
Bienvenue tous les deux à ce micro. Ryan, Ladissa, je crois que c'est la première fois que nous accueillons tous les deux.
C'est la première fois.
L'un
les
et l'autre.
Deux ensemble. Ah.
Les deux ensemble et indépendamment.
Moi, je suis venu moi déjà.
Oui. Ah oui, c'est vrai que tu étais venu.
Bah oui, moi je suis venu déjà.
Non, mais le problème, c'est que. Alors, on va se dire la vérité. On se voit beaucoup, notamment au théâtre, avec Ladislas, et je ne sais plus faire la part des choses. si c'était la vie privée ou la vie professionnelle. Je suis débordé. Nouveau long métrage, premier long métrage pour Ladislas Chola. Ça s'appelle Let's Dance. C'est en salle demain avec Ryan Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume de Tonquédec, Florence Pernel également, Lynn Renaud, et puis après un florilège de danseurs comédiens brillants comme Fiorella Campanella, Mehdi Kerkouche, Brahim Zaibat entre autres, et l'histoire d'une... D'abord c'est l'histoire d'un premier film déjà, c'est l'histoire d'un premier film, l'histoire d'un jeune provincial qui monte à Paris pour tout conquérir, tout gagner. C'est un danseur de hip-hop, et il va être confronté au casting, à la sélection, au regard des autres.
Exactement.
Et par moment d'ailleurs à l'abandon de certains proches.
Ouais, c'est ça, c'est très bien dit.
Il va se battre
et puis il va surtout vivre la vie d'un provincial qui arrive sur Paris et qui a un but qui a un rêve et qui va pas le lâcher.
Qui est un danseur et qui il a tout son passé aussi personnel assez délicat, notamment avec sa maman qui était une danseuse classique. Et il va, et puis on sent d'ailleurs, ce sont les premiers mots que l'on entend d'ailleurs dans votre film,
fait, oui.
C'est allô papa. Enfin, c'est la voix de Ryan Bensetti qui laisse un message sur le répondeur de son papa. Sous-entendu, je m'en vais, tu peux pas me retenir et tiens quoi.
Je vais tenter ma chance, oui.
Ouais, mais on sent aussi dans sa voix qu'il n'y a pas une passion folle père-fils hein, dans les rapports entre les deux.
Ouais. Enfin, y a, c'est une relation qui est un peu tendue, qui est sans doute très pudique en fait, qui est faite de silence.
Il n'y a pas beaucoup de je t'aime entre eux.
Exactement, oui.
Ce film, c'est un premier film. Est-ce que comme pour un premier film pour un premier roman, il y a une part autobiographique?
Oui, bien sûr. De toute façon, je pense que si on veut toucher les gens, il faut bien parler de soi, en fait, même si c'est un peu égocentrique, mais c'est nécessaire, en fin de compte.
Et c'est vrai que moi, gage en fait. Gage de sincérité, en fait, ouais.
Oui, si on veut être sincère, voilà. Et moi, c'est que là-dedans, j'ai raconté mon arrivée à Paris, même si moi, j'étais dans le monde du théâtre, parce que je suis metteur en scène de théâtre, mais j'ai raconté dans ce film mes doutes, mes peurs, mes angoisses, le fait que j'avais l'impression d'être un imposteur, en fait, en tant qu'artiste. Et comment j'ai...
C'est très surprenant parce que c'est pas du tout le sentiment, c'est pas du tout un film angoissant, c'est un film plutôt positif et plutôt encourageant, mm-hmm. avec beaucoup de messages et beaucoup de valeurs, et c'est assez surprenant de passer par le prisme de tout ce qui est le plus noir ou de plus anxiogène chez vous, pour donner quelque chose où on ressort avec la banane.
Oui, parce qu'en fait c'est un film sur la confiance, en fait sur la prise de confiance, et moi s'il y avait un message dans ce film, c'est un film qui j'espère donnera confiance aux gens et leur permettra d'avancer, de grandir, de croire en eux, c'est vraiment le message de ce film. Mais moi, ça raconte ce moment-là où je suis passé du moment des doutes au moment où d'un coup j'ai trouvé ma place.
Et c'est à travers le collectif que ça se joue. Parce que est-ce que c'était le cas pour vous? Parce que le théâtre, on parle de troupe, mais quand on est metteur en scène, c'est un peu différent. On est peut-être un peu plus seul que quand on est danseur et qu'on se veut chorégraphe.
Pas dans mon cas, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé en compagnie amateur, j'ai commencé en troupe, je suis arrivé à Paris avec des gens, en fait, autour de moi.
En étant d'abord comédien avant d'être metteur en scène.
Oui, très mauvais comédien, très comédien.
Il y en a d'autres qui ont fait carrière, vous savez, Ladislas.
Ouais, on les reçoit toutes les semaines, hein, sur votre place.
Ça défile, hein.
Et ils font du blé, hein, je vous le dis. Ils se régalent.
Moi, écoutez, j'ai pas eu cette naïveté-là de me croire bon comédien. J'étais vraiment très mauvais, et je suis très heureux, en fait, en tant que mettait en scène, et maintenant en tant que réalisateur, j'ai l'impression que vraiment elle est là, ma place.
Place à l'interro. Maintenant, à savoir si vous avez travaillé un tout petit peu vos dossiers sur Ryan et Ladislas. Pourquoi Ryan Bensetti a-t-il réussi à faire rire lors du casting de la série Peps?
Il est tombé.
Il n'est pas tombé.
Il a tué quelqu'un?
Non, ouais, c'est vrai que c'est toujours drôle.
Oui?
Mais non.
Moi, ça me fait rire.
Non, je sais.
Il n'avait pas appris le bon rôle.
Et
du coup, il n'a pas donné la bonne réplique, quoi. et il avait changé les rôles
en anglais.
Donc, on l'a pris pour un autre rôle.
C'était drôle complètement, parce... c'est Pierre Richard quoi.
Il a pleuré.
Allez, je vais accepter. Vous n'avez pas appris le bon rôle, vous avez dû improviser, ça fait rire tout le monde.
Ouais. J'avais pas de texte. On m'a dit j'espère que t'as bien appris ton texte et malheureusement non. Donc j'ai improvisé et ça les a fait marrer.
Mais c'était alors pardon, c'était un côté flemmard où vous n'aviez pas reçu le mail, le fax, les coursiers.
Sur le moment, c'était un peu les deux.
C'est un incident. C'est vraiment une faute.
C'était un peu les deux. Il y avait une faute professionnelle.
Une vraie faute professionnelle.
Et puis il y avait un manque de temps parce que je venais de Lyon et qu'il y avait toute cette histoire de comment faire justement pour venir à Paris un jour pour un casting et revenir. Il n'y avait pas forcément de sous pour prendre le train et toutes ces histoires. Donc il y avait toutes ces galères à trouver. Ça m'a pris plus de temps que d'apprendre mon texte.
Ça fait écho sur Let's Dance aussi. On revoit d'abord l'histoire de la gare, l'arrivée, et puis cette espèce d'angoisse d'être jugé par des gens que l'on ne connaît pas. Et pourquoi eux, ils nous jugeraient d'ailleurs? Parce qu'ils sont assis de l'autre côté de la table. Quoi.
Exactement. Et puis, quand on ne connaît pas, en plus, on se sent très démuni. On nous met devant une caméra et on nous dit vas-y, présente-toi. Je m'appelle Ryan. On n'est pas très confiant au début. Et puis,
déjà, il faut expliquer que ça s'écrit pas comme Gosling, mais avec
deux A. Et puis, après, il dit vas-y, fais ton texte, quoi. Donc, quand tu l'as pas, c'est compliqué. Donc, ça a été un moment très long à la base dans ma tête, mais finalement, ça s'est bien passé.
Comme beaucoup de moments de solitude.
Ouais.
Que fait Ladislas Chola tous les ans, et ce depuis la classe de 4e?
Son anniversaire.
Son anniversaire, c'est pas mal.
Depuis la 4e.
Depuis la classe de 4e, il fait ça tous les ans.
C'est un voyage
saoule,
un peu...
Il écrit un livre,
la mémoire.
Il va avoir des enfants,
non,
il offre quelque chose à des gens, il fait une pièce de théâtre.
Exactement. Tous les ans, depuis votre classe de 4e, vous montez une pièce de théâtre?
Au moins une, parce qu'en fait, les derniers temps, j'en ai plutôt monté 4, mais grosso modo, oui, c'est une réalité.
C'est un peu comme toi et les packs de bière, tu vois. C'est ça la différence. Quoi.
Je sais pas à qui il parle.
Je sais pas.
Ça va, vous hein?
Tout ça va bien.
Mécaniquement, c'est pas... Humainement, c'est pas possible. Et puis depuis la case de 4e, on n'est pas fini en 4e pour monter.
Parce que moi, franchement, je ne savais rien faire d'autre que ça. En fait, c'est que et j'adorais ça. Et c'est vrai que moi, contrairement à mon voisin de table, j'allais très peu en boîte de nuit. Je sortais très très peu.
J'étais jeune.
Merci. J'ai rien demandé, mais
cadeau.
J'ai redécouvert les boîtes de nuit sur la tournée qu'on a fait en province pour présenter le film grâce à Ryan. J'ai revécu ma jeunesse. Mais en fait, grosso modo, moi, mon activité quand j'étais jeune, c'était de faire du théâtre avec ma troupe.
Et de monter des spectacles, d'ailleurs. Parce qu'on dit théâtre, mais c'était spectacle en règle générale.
Oui, bien sûr. C'était de créer des spectacles.
Il y avait-il déjà de la danse?
Non.
Des comédies musicales.
Tout ça, c'est arrivé très, très tard. Les comédies musicales, c'est arrivé dans ces 5-6 dernières années avec Transgall, Résiste et puis Oliver Twist. Mais voilà.
Depuis le tournage de Fort Boyard, Ryan Bensetti a développé une nouvelle phobie.
Les araignées.
Les serpents, les araignées, les vides.
Alors.
Le perforant.
Les personnes de petite taille.
Télé, comment tu appelles ça?
Les barbus.
Le nanisme.
Non, c'est pas ça. Il a contracté l'onanisme. Non.
Le lilliputianisme.
Non.
Les lions.
Le nagisme.
L'argent.
Non, tu l'as dit.
J'ai dit le vide.
Ouais, exactement.
Ah oui,
exactement.
Tout de suite,
Le vertige.
Ouais.
Vous avez été suspendu?
Non, mais j'ai passé un super mauvais moment. Ils m'ont mis. Alors. Tout en haut du fort, d'accord, sur une poutre de gymnastique avec une chaise. Et ils m'ont dit, alors t'as vu cette chaise? Tu vas la mettre jusqu'au bout de la poutre, d'accord. Et une fois que la chaise sera au bout, tu montes sur la chaise. La chaise, elle est bancale. Hein. Tu montes sur la chaise et puis t'as vu le trapèze qui est là-bas. Tu sautes et t'attrapes le trapèze. Ils sont complètement fous.
Même Mario Bros, il lui propose pas de faire ça.
Et même, je me trouvais pas assez long de toute manière pour attraper ce trapèze. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais pas choper ce trapèze, je vais tomber dans le vide. Donc en fait, on m'a demandé de sauter dans le vide, j'ai dit non.
Vous auriez pu laisser pousser vos bras quand même avant.
Ouais, je suis d'accord.
On sait pas comment ça se passe le tournage de Fort Boyard. À aucun moment on ne peut dire non.
Moi j'ai dit non une fois parce que il y avait un truc qui voulait me mettre sur une chaise qui tourne.
Encore, c'est très chaise. Vous
ouais, hein, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de
chaises électriques aussi.
Et en fait, ils voulaient me mettre là-dessus. C'est un truc qui tourne. Le problème, c'est que je suis malade en voiture. Donc là-dedans, je leur ai dit à quoi ça sert d'avoir.
C'est vrai qu'on vous appelait vomito quand vous étiez petit.
Ouais, c'est vrai. Et du coup, je leur ai dit là, pour le coup, vomir à la télé, c'est pas un kiff quoi.
Donc j'en découvre sur toi.
Oui, vomito. J'étais malade en voiture. Je pouvais pas aller à la montagne sans m'arrêter.
Notre plaisir. plaisir, nous, c'est d'inviter des beaux gosses et des cornets un tout.
C'est ton plaisir.
Est-ce que ça se voit que c'est moi qui
les
kiffe?
C'est ta vengeance.
Eh ben, écoute, la nature avait fait le reste.
C'est vrai qu'elle n'a pas été tendre.
Si Ladislas Chola avait besoin de se reconvertir, dans quel autre métier, quel autre secteur pourrait-il travailler?
Le douanier.
Non.
L'église.
L'église.
Le droit. La littérature.
La prostitution.
Fleuriste. Libraire.
Alors, on peut trouver un écho avec son actuel métier, mais lointain, mais en tout cas, il y a une base.
Ébéniste.
Journaliste.
Non.
Directeur de théâtre. Il est programmateur.
Postier.
Il est réalisateur.
Professeur.
Metteur en scène.
Prof.
Monteur de
troupe,
organisateur.
Psychorigide ?
Pas loin, donc, sûrement.
Si.
Impresario, agent.
Dans l'événementiel.
Agent, directeur de casting.
Non, alors agent de quoi ?
De
producteur.
Non.
Police.
Agent de musicien, agent de comédien.
Agent
d'enfant.
Oh, j'adore, vous n'avez pas trouvé, j'adore.
Attends, c'est bizarre.
C'est vraiment logique.
Donc ouais, on en revient à 5 minutes. Hein. Donc quoi, la nature m'a fait quoi? Je suis moche, je me mange de quoi?
Mais t'as la réponse.
T'es pas moche, Nagui, t'as du challenge.
Agent de mannequin.
Agent de voyage.
Ouais, exactement.
Non. Organisateur de voyage.
En fait, je passe mes nuits à organiser des voyages que je ferai sans doute pas.
Et j'adore beaucoup de
Jérôme Commandeur nous a dit la même chose à ce micro il y a une semaine. Ouais. La même chose.
Ah, alors, de temps en temps, je fais les voyages, hein, heureusement, et heureusement pour ma petite famille, parce que ces voyages aboutissent à quelque chose de concret.
Il va sur Internet, il organise tout le truc, et après il fait annuler.
Vous allez au Touquet.
Et moi, de temps en temps, alors, au Touquet, non, je vais plus loin. Enfin, au Touquet, j'ai une maison en baie de Somme maintenant, donc je vais pas si loin du Touquet que ça. Mais j'organise beaucoup. Ouais, j'adore ça en fait, aller chercher les hôtels, les trucs, les plans, aller sur les blogs et tout, j'adore ça. Vraiment, c'est une deuxième vie.
Et pardon, ça fait rêver d'imaginer un voyage qu'on fera jamais. Il n'y a pas un petit côté frustrant de...
Comme ça fait faire des économies. J'ai pas beaucoup de temps en fait pour voyager. Mais oui, ça me fait rêver, c'est partie de ma part de rêve, quoi, de me dire, tiens, j'aurais pu aller là si je travaillais pas autant. Voilà.
Ryan Bensetti a demandé à une célèbre actrice, ça s'est passé, je vais vous aider, au César. Il a demandé un dédicace.
Le Mercier.
Et elle a refusé.
Pénélope Cruz.
Non.
C'était
Deneuve.
C'était une française.
Ouais.
Adjani.
Sophie Marceau. Ouais. Adjani.
Et
Monica Bellucci.
Non. Il faut se mettre en situation. Qui il faut refuser quand même une dédicace. C'est chaud.
Une méchante alors.
Ah bon? Non.
Adjani. Adjani.
Une saleté quoi.
une connasse. C'est ça. Non.
Allez, non. Enfin, on est sur France Inter. On avait dit qu'on s'y allait bien.
Elle a plus de 50 ans.
Elle a refusé. Est-ce qu'elle a fini par accepter ou pas du tout?
Non, elle a pas accepté.
Ne dis rien. Elle a juste dit non.
Elle a dit non.
Elle dit c'est pas possible.
Elle a dit je connais pas ta mère.
Ah oui voilà.
Parce que c'était une dédicace pour ma mère. Ouais, elle a dit je connais pas ta mère.
C'est une blague.
Non. C'est pas une blague.
Plus de 50 ans?
Attention, Nagui.
Actrice française n'a plus de 50 ans.
Non, c'est une demoiselle.
Lynn Renault.
Cécile de France.
Non, mais vous allez halluciner quand vous allez entendre le nom.
Marianne Chazal. Catherine Fro.
Valérie Le Mercier. Marina Foïs.
Non, c'est plutôt une comédienne qu'on pourrait dire rock'n'roll, ouais, mais non.
Béatrice Dalle.
Non.
Rock'n'roll.
Ok, bon bah alors.
Attends, c'est génial.
Un autre indice.
Alors, un autre indice, une comédienne qui un jour s'est trompée en ouvrant une enveloppe au César.
Vanessa Paradis.
Exactement.
C'est pas une comédienne. Je dis, c'est une chanteuse pour moi dans ma tête, elle ne classe pas là-dedans.
Non, c'est dit.
Bon, elle a dit non, quoi. Hein, voilà.
Ouais, elle a dit non, mais bon, après,
il faut raconter. Ouais.
Voilà, avec le recul, je me dis aussi, peut-être que voilà. Mais.
Ah oui, ouais, c'est une bonne philosophie.
Non, peut-être que voilà. Non, mais bon, je lui ai pardonné. Dans ma tête, ça y est, Voilà, je l'ai pardonné, quoi.
En fait, sur le moment, c'est quoi? On vit un moment de solitude.
En fait, sur le moment, si tu veux, c'est que j'étais. Ma mère, elle adorait tous les gens qu'elle voyait à la télé. Oui. Donc, je lui faisais à chaque fois une petite dédicace dès que j'allais quelque part. J'avais mon petit caméra, je lui disais, est-ce que tu peux juste faire un petit bisou à ma mère? Et elle m'a répondu, non, moi, je la connais pas, ta mère. je vais pas lui faire une dédicace, machin. Donc, oui, assez triste.
Elle te connaît, ça change.
Voilà, c'est ça. Bon, j'étais assez déçu. Après, je pense.
Mais pardon, vous étiez dans les coulisses, elle savait que.
Non. J'étais.
Au fast-food, c'était.
J'étais chez elle, j'étais dans son frigo, je l'attendais.
Dans le hall de son immeuble avec 10 mecs.
On était vraiment devant les Césars, mais on était à la porte, quoi, à la porte d'entrée.
Vous étiez inconnu à l'époque?
Inconnu. Inconnu.
Il faut préciser que vous étiez nu quand vous avez fait la demande.
Ouais, bien sûr. Non, elle aurait dit oui.
Ce qui est terrible, c'est que si tu redemandes dans quelques années, à mon avis, elle te dira oui.
Oui. Je pense.
Mais sauf si elle écoute là.
Est-ce pour ça, Ryan, que maintenant tu ne refuses plus aucune dédicace?
Mais
parce qu'en fait, lui, il signe tout, il prend toutes les photos, etc.
C'est une leçon pour vous.
Ouais, mais moi, pour le coup, je sais que jeune, j'aimais faire ça, et c'est un truc, voilà, de faire des photos avec des gens connus et tout. J'aimais le faire, et aujourd'hui, bah voilà, je me mets à ma place quand j'étais plus jeune, donc maintenant, je le fais avec tout le monde.
Même quand les gens veulent pas, pareil.
Dernière question. Dernière question.
Il force.
Dernière question avant de parler de Let's Dance. Ladislas Chola a vite compris, comme il l'a dit tout à l'heure, qu'il ne serait pas comédien. Mais pour quelle raison?
Et alors, c'est pas une question de talent, de qualité.
Non.
Les mains moites.
Ce métier est pas pour moi.
Il est comme Ryan sur une chaise. Il vomit.
C'est un peu ça, mais.
Malade avant de monter sur scène, il avait un problème de mémoire.
Ouais. Ah, il y avait un problème avec ce que le métier impose, ne lui allait pas.
Le nom, la notoriété.
Qu'est-ce qu'il ne veut. Non, mais rappelez. Mettez-vous à la place d'un comédien. Quel est le problème d'un comédien?
C'est une injonction.
Il ne veut pas refuser de travail. Il ne veut pas refuser de projet. Il veut pas d'agent, il veut pas s'engueuler avec des gens, il veut pas prendre la place d'autres gens.
C'est mignon, mais non, ça, non. Pas du tout. Ladislas, tu connais pas.
Tous ceux qui sont assis là, crois-moi, c'est pas la philosophie. Hein.
Ma maman écoute cette émission.
Il voulait pas aller à des projos, il veut se coucher très tôt le soir, asset.
Il veut pas se maquiller. Il y a un truc qu'il ne voulait pas faire. En tant que comédien, il dit ce métier n'est pas pour moi, parce qu'un comédien est toujours en train
de
faire de la promo. De se mettre en représentation.
Ça, c'est dans l'idéal quand il bosse.
Il attend le téléphone,
chômage.
Il attend
merci.
Que ça sonne. Ouais, d'accord.
Ah ouais, t'as dit ça?
Mais non, et moi en fait, tu vois comme je suis.
Je pense que je vais être au chômage toute ma vie.
Je suis hyperactif, mais non, et moi je pouvais pas attendre. C'est à toi l'idée d'attendre, d'avoir du temps, enfin d'attendre qu'on.
De ne pas être finalement le moteur d'un projet, mais d'attendre le désir d'un réalisateur, d'un metteur en scène, d'un producteur.
C'est totalement contraire à mon caractère, toi, ma façon d'être et de ça. Je pouvais pas. Je suis beaucoup trop actif en fait, dans mon énergie en fait, c'était impossible.
Parlons donc de cette énergie que vous avez déployée pour monter ce projet Let's Dance, votre premier film. Il faut le dire dès le début, on a aimé, on a été pris par l'histoire, à tel point que ça pique un tout petit peu les yeux pour les... Voilà.
on les motive.
Une vie, il pleure devant les pubs pour Erta.
Hein. Oui, parce que tu me forces. Oui, parce que tu m'attaches pour que j'y regarde.
Quand tu sors des petits animaux.
Mais j'avoue la petite larme de fin qui va bien avec une histoire qui est touchante. Il y a encore une fois l'arrivée de Ryan Bensetti avec ses potes. Vous venez de province. On ne sait pas trop d'ailleurs de quelle province. Hein.
Non, on arrive à la gare. Décidé, ouais. En fait, voilà, on s'était assez ouvert d'ailleurs ça. Ouais. Je sais plus où.
À la base, il y avait un nom, mais il a vite été enlevé, je crois.
Et on arrive à Paris. En fait, on monte à la capitale pour passer un casting parce que l'une des filles de la bande dit j'ai un pote et il nous attend et il m'a laissé un message pour me voir. On comprend assez rapidement que le chorégraphe, le pote en question, ne voulait voir que la fille pour la fille, être
exactement.
Avec la fille et pas du tout pour le boulot. Donc évidemment, le fiancé joué par Ryan Bensetti ainsi que le pote à côté se sentent un peu les boulets de l'histoire avec « mais qu'est-ce qu'on vient faire nous dans ce casting ?» Et là déjà, force abnégation, dépassement de soi, par amour propre, dans une espèce de chorégraphie qui est plus un duel, un combat de coq.
C'est hyper bien filmé.
Vous allez prouver ce dont vous êtes capable, être engagé pour ensuite aller présenter des concours de hip-hop en groupe. Ça, c'est une première histoire. Parallèlement à ça, il y a le retour vers votre beau-père, professeur joué par Guillaume de Tonquédec, professeur de danse classique, dans une école où Florence Pernel est la directrice, elle extrêmement exigeante, tirée à quatre épingles, mais dans tous les sens du terme. extrêmement
c'est quoi tous les sens du terme
tirée à quatre épingles pour les fringues et extrêmement tendue, on la sent austère, voilà, on sent la directrice qui pourrait être directrice d'un pensionnat de jeunes filles.
C'est le cliché de la danse classique.
Et qui est sous médoc.
Et qui exige des résultats de la part des classes de musique classique et de danse classique à son professeur en lui mettant une espèce de deadline avec si vous ne réussissez pas à faire rentrer des danseuses dans un concours de ballet classique, vous êtes viré ou je ferme l'école ou je prends un autre chorégraphe. Bref. Et donc, on a ces deux histoires en parallèle qui ont évidemment s'entremêler dans une très belle histoire d'amour. Quand on voit la bande-annonce, de toute façon, je ne ne dévoile rien en racontant ça. Mais par contre, je ne dis pas comment les choses vont se mélanger. Et c'est ça aussi qui est intelligent, c'est qu'il va y avoir ces mélanges de danse, de style, de genre, de rangs sociaux.
Oui, c'est exactement ça. En fait, moi déjà d'une part, je voulais montrer une image de la jeunesse hyper positive en fait. Je voulais pas souvent dans les films, je trouve que les jeunes ils sont toujours montrés comme des geeks qui fument des pétards enfermés dans leur chambre derrière leurs écrans, et je voulais montrer en fait des jeunes qui ont envie de se battre, et puis je voulais parler des générations, des différentes générations, et c'est pour ça que j'ai choisi des acteurs, ça va de Ren Benedetti à Lynn Renault, parce que moi je sais que je me suis construit avec les gens qui m'ont fait confiance dans ma vie et qui m'ont dit quelques phrases sur lesquelles j'ai pu avancer en fait, et dans ce film j'ai essayé de mettre tout ça, et Guillaume de Tonquédec dit quelques phrases clés à Joseph incarné par Ren Benedetti, Lynn Renault dit quelques phrases clés à sa petite fille.
Un ou deux exemples quand même de phrases clés.
Moi, je sais qu'il y a un acteur, Jacques Gamblin, que j'ai fréquenté pendant un temps, qui un jour m'avait dit la phrase que je donne à Guillaume dans le film, qui lui dit « Mais toi, tu cherches toujours à plaire. À quoi sert de plaire? Ça sert à rien. Être un artiste, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi. Faut pas chercher à séduire, en fait. Faut chercher à raconter ta propre histoire. »
En espérant que ça séduise.
En espérant que ça s'éduise.
Il y a toujours quand même.
Dans un deuxième temps. Mais c'est vrai que cette phrase-là, moi, je sais, quand j'étais jeune, en effet, je cherchais à plaire. Et aujourd'hui.
Ce qui est le cas, pardon, de tous les adolescents de la planète
aussi. Oui, bien sûr.
Il y a un problème d'image, de regard des autres, avec en plus les réseaux sociaux, les likes et compagnie. On cherche à plaire.
On cherche en permanence à plaire.
On cherche à être aimé en général, réseaux sociaux ou pas.
Oui, bien sûr.
À être populaire.
Et pour aller plus loin, les ados qui ne plaisent pas ou qui sont rejetés ou qui sont harcelés peuvent aller jusqu'au suicide ou se sentir totalement abandonné, donc c'est une période de la vie extrême.
Bien sûr, une période de la vie extrême. Mais en tout cas, je sais que cette phrase-là, en fait, où il m'avait dit « renonce à plaire », ce qui était un peu étonnant comme phrase, m'avait vraiment marqué et m'avait intéressé dans ma vie d'artiste. Oui.
Avec la part de risque aussi, Ren Benedetti, c'est-à-dire que vous quittez le papa et son entreprise familiale, donc vous abandonnez une situation et une condition sociale pour tenter votre chance.
Ouais, c'est ça. C'est l'abandon vraiment, on va dire, du côté sûr pour la passion et le rêve. Et voilà. Donc, alors, pour le coup, il sait pas où il va. Hein, mon personnage, il sait pas. Il arrive, il dort à trois dans un petit canapé chez des potes. Ils sont.
Vu le prix du mètre carré à Paris.
Exactement. Voilà. C'est ça. On le dit dans le dedans.
Ouais,
c'est
tout
multiplié par 7, c'est comme les sandwichs. Donc c'est
comme les chiens. Je regarde, vous dites n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'il vient faire le sandwich au
bout? Il vient juste de se réveiller. C'est la fin.
On avait dit un truc sur le sandwich.
Bien sûr, ça va aller, oui, bien sûr.
Bonjour. Non, mais voilà, là on raconte vraiment en tout cas ce parcours et l'arrivée à Paris et toute cette galère. Mais justement, il abandonne tout pour suivre sa passion. Quoi.
Alors, il y a beaucoup de danse dans le film.
C'est un film lumineux, extrêmement déjà, bien filmé. C'est important, tu l'as dit. Et aussi, film de danse dit forcément des passages chorégraphiés. Et donc, moi, je suis particulièrement attentive à la façon dont c'est restitué, parce que c'est pas simple, la danse. Que ce soit en général la danse contemporaine, quand on la capte pour la retransmettre à la télévision ou sur internet, c'est compliqué. Et là, je trouve qu'il y a une vraie proposition aussi avec des plans aériens, avec un montage hyper dynamique qui colle avec une musique et qui laisse aussi la place à une forme de liberté, de poésie, que ce soit dans la danse classique ou dans la danse un peu plus hip-hop. Ça, c'est, j'imagine que c'était une part importante aussi de la préoccupation du réalisateur.
Oui, en fait, filmer la danse, c'est hyper difficile, surtout pour un premier film. Donc en fait, j'ai tout storyboardé en fait ces scènes de danse, mais j'ai toujours cherché en fait que la danse elle soit
par des vrais dessins, par des vrais croquis.
Oui, des vrais dessins. J'avais un conseiller technique super, Benjamin Rocher, qui a été génial avec moi, parce que moi j'apprenais au fur et à mesure que je faisais, vu que j'étais ignorant de tout.
Il faut qu'on cite à ce stade, puisqu'on parle de danse, de chorégraphie, Marion Motin, qui est la plus grande chorégraphe sur la place mondiale en ce moment, parce qu'elle a fait des. Non, elle a bossé avec Madonna, elle a bossé avec Robin Williams, évidemment avec Christina and the Queens, Stromae, elle a fait Résiste avec vous, donc c'est plus qu'une chorégraphe, une amie, j'imagine.
Oui,
maintenant.
Mais moi, sans ma complicité avec elle, franchement, je me serais peut-être pas lancé dans ce
carrément.
Film. Comme sans Ryan, je me serais pas lancé dans ce film non plus, parce que, en effet, sur un film de danse, qu'un film de genre, il faut que les numéros dansés soient hyper réussis. Et avec elle, je savais que ça irait haut, en fait. Mais avec Marion, encore une fois, je lui ai dit, il faut que la danse, elles servent à la fois à nourrir les personnages, en fait, les sentiments des personnages. Il faut que la danse aussi, elle soit action dans le film. Et en permanence, on a essayé de faire en sorte que quand, par exemple, le personnage est mal accueilli lors de cette audition, vous avez parlé de danse comme un combat, sa danse, elle est colère, et j'ai essayé de la filmer comme de la colère. Quand mon héros,
Rocky, mais la référence, Rocky, la référence à Rocky, avec le poing serré, avec même la référence à la fin. Il y en a beaucoup de références d'ailleurs. Mais avant de les dévoiler, d'ailleurs, je voulais connaître vos références. Vous avez bossé en voyant beaucoup de films, notamment de films de danse.
J'en ai vu beaucoup, mais ces gens comme moi, vraiment, mes grandes références en film de danse, c'est Billy Elliot, ce qui est vraiment le, pour moi, le film de danse tellement fort, tellement beau, tellement social aussi. Black Swan, parce que ces films racontent aussi la naissance d'un artiste. Et moi, c'était ça où je voulais aller. Je voulais pas que la danse elle soit considérée comme une compétition.
Il y a un peu de flash dance aussi dans le mélange classique hip-hop. On retrouve cette référence-là de mémoire.
De toute façon, j'ai respecté ce qu'est le genre film de danse. Ouais. Donc j'ai repris le professeur de danse, le mélange des genres. J'ai essayé de mêler tout ça et d'y mettre ma propre fragilité et sensibilité à l'intérieur de tout ça.
Il y a évidemment une bonne son de dingue dans ce film. Un couple qui fonctionne extrêmement bien entre Alexia Giordano, qui a un port de tête de danseuse classique, mais qui a un regard de rebelle. Vous l'avez prise par casting, vous la connaissiez déjà?
Casting, c'est son premier long métrage. Elle a fait le Conservatoire de Paris.
Elle fait penser un peu à Audrey Marnet dans le regard, ce qui est un compliment. C'est bien une très jolie comédienne.
Mais en fait, c'est une fille qui a arrêté la danse depuis 3-4 ans pour vouloir être comédienne. C'est son premier long métrage, mais comme tous les jeunes du film, pour tous, c'est le premier long métrage, et ça, c'était génial pour moi de mettre en avant, aux côtés de Ryan, une nouvelle génération d'acteurs. C'était super. Ouais.
En tout cas, non, il est touchant ce film, et puis en plus, il est visible par tout public. Ouais. Et c'est vrai que aller en famille voir Let's Dance pour aussi transmettre quelques valeurs à des gamins, ils retrouveront la musique qu'ils aiment, tous les uns les autres.
Ça, on aime ça.
Bah, évidemment. Non, et puis, encore une fois, je précise, et c'est important, film familial, parce que vous n'avez pas cédé à la tentation de quelques scènes ou quelques images, soit dénudées, soit choquantes, soit vulgaires, pour être dans l'air du temps ou pour être racoleur.
C'est un film d'ailleurs assez pudique en fin de compte, mais ça me ressemble. Ouais. Moi, je suis hyper pudique et j'aurais beaucoup de mal, pour tout vous dire, pour mon premier film, de diriger une scène de sexe, etc. Ça aurait été trop compliqué pour moi. Je réserve ça au deuxième ou au troisième film.
Ouais.
Voilà. T'es prévenu, Ryan, si un peu de...
Mais tu sais, nous, on voulait
au volume 3, tu feras la chaise, mais la chaise, c'est une position du Kama Sutra. C'est plus. Sur une poutre.
Sur une poutre dans le vide.
D'ailleurs, c'est le titre du film. Sur une poutre dans le vide.
Mais nous, tu sais, c'était aussi un pari de pas faire un énième film de danse avec, tu sais, il y en a beaucoup des films de danse qui ont été faits aujourd'hui depuis l'an 2000 et bon, pas beaucoup en France, mais les street dancers, les step-up, les sexy dance, il y en a beaucoup qui ont été faits. Et en général, t'as toujours cette fameuse scène sous la pluie sur le toit où ils s'embrassent. T'as toujours cette scène au lit. T'as toujours cette scène.
La douche après, exactement.
Il y a toujours, en fait, ce truc. Et on voulait pas non plus rentrer dans les clichés. On a gardé, évidemment, bien sûr, comme il disait, ce qui est les bases du film de danse. Donc le prof, le mélange de genre, mais après tout le reste, on a essayé quand même d'être assez
notamment la relation amicale. Moi, j'ai trouvé génial ce personnage incarné par
Mehdi Erkouch. Ouais, il est génial.
Voilà, qui apporte aussi une forme de fantaisie, qui apporte aussi une autre forme de danse. Je sais pas quelle est son orientation sexuelle ou pas, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui pile.
Il n'y a pas de doute, hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute.
Oui, il le dit. En même temps, il regarde, mais on peut. Moi, je sais pas. Je pense qu'il peut être ouvert sur autre chose. Mais bon.
D'ailleurs, il y a une vanne qui est faite, je crois, c'est au but de Chaumont quand il y a une vanne où dit oh, regarde la jolie fille, ouais. Et depuis quand tu t'intéresses aux filles, toi? Non,
oui,
c'est
mais ouais. C'était un indice.
Oui, mais sauf que je pense qu'il s'intéresse aux beaux, mais bon, voilà, ça, c'est ma lecture à moi, mais en tout cas, j'ai adoré ce personnage.
On la respecte, on la respecte.
Voilà. Et j'ai adoré ce personnage parce que je l'ai trouvé plein d'énergie, parce qu'il est souriant, parce qu'il apporte aussi autre chose.
Mais c'est un,
ouais. Et il parle de la communauté de la danse aussi.
C'est un rôle clé dans l'histoire.
Il est chorégraphe, lui.
Oui, il est chorégraphe et danseur. C'est sa première fois au cinéma, mais encore une fois, là aussi, c'était pour moi génial. J'ai vu 250 danseurs, en fait, pour réunir ce casting-là. Et je dois avouer que quand Mehdi Kerkouch il est arrivé dans le studio de casting comme Alexia Giordano, c'était un bonheur fou parce qu'en une minute j'ai su que c'était mon personnage et j'ai franchement tout réécrit en fonction
ça
de
ça. S'explique pas ouais. Ça le magnétisme de quelqu'un qui rentre dans une pièce hein.
Ouais mais sa joie en fait, ouais. Il arrive ouais, autour de lui franchement quand on fait les avant-premières on a l'impression qu'il est sorti de l'écran, c'est-à-dire que les gens il est tellement pareil dans le film que dans la vie, les gens ont l'impression qu'il a traversé l'écran pour se présenter et il est vraiment comme
t'as
ça.
T'as aimé ça toi Daniel hein. Hein Daniel t'as aimé?
Non, j'ai beaucoup aimé. Ouais, ah, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer en plus, mais avant et de le retrouver à l'écran, j'ai trouvé que c'était un acteur formidable.
Oui, il est super. Ouais.
Très honnêtement.
Père Albert, ce oui, film qui sort mercredi est un succès annoncé. Ben,
mon cher Nagui, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça fait longtemps que je m'intéresse aux danses de jeunes, notamment au break dance et au hip hop. Aussi, puis-je vous dire que Let's Dance. Oui, je sais, j'ai un problème d'éloquence ce matin.
Un petit yop de bouche.
Aussi, puis-je vous dire. Vos gueules. Que Let's Dance va captiver les jeunes, les moins jeunes, les beaucoup moins jeunes, comme vous, Nangui, et les beaucoup, beaucoup moins jeunes, comme moi.
Et les morts.
Et puis, par-delà, pourquoi pas. Et puis, soyons sérieux, par-delà l'intérêt que chacun peut porter à la danse, ce film est, comme dirait Leïla Kaddour, un film d'apprentissage, un récit initiatique, puisque tant le bondissant Joseph, incarné avec finesse, souplesse, grâce, agilité, et vigueur aussi, ah oh oui, il est puissant, par Ryan Bensetti, Coco Ryan. Tant Joseph, disais-je, que la ravissante Chloé, alias Alexia Giordano, dont vous avez parlé un instant, elle n'est pas là, mais je lui dis quand même, Coco, Alessia, tous les deux donc subtilement mais fermement dirigés par Ladislas Chola, Coco Ladislas, non seulement prépare un difficile concours, mais surtout car ce sont deux jeunes en recherche, surtout ils vont s'ouvrir à leurs disciplines respectives, bien que les canons de celles-ci soient si différents. Alors Trapnar, on la ramène maintenant. Bon, maintenant Nangui, je vais vous exposer. Oui, mais ça fait du bien. Maintenant Nangui, je vais vous exposer les raisons plus personnelles que j'ai de kiffer le hip-hop.
Wouch.
En soi, la danse n'est point mauvaise. Mais il est des danses qui facilitent et multiplient les occasions de rapprochement corporel, qu'il s'agisse de la valse, du tango, de la rumba, quand le couple que le rythme met en transe s'enlace pour se déhancher en tricotant des cuisses, poitrine, contre poitrine, haleine, contre haleine. Ah, ça me dégoûte.
Père, calmez-vous.
Voilà pourquoi j'apprécie le breakdance et le hip-hop, pour une raison simple. Les danseurs et les danseuses ne se touchent pas, ou presque pas. Ceci dit, à bien réfléchir, ces danses n'en sont pas moins dangereuses, car ce qui compte alors n'est pas la mélodie et l'harmonie qui apaisent l'âme, mais le rythme animal, le beat, toutes sortes de beats qui stimulent la sécrétion d'hormones sexuelles des jeunes, qui se transforment en véritable boule de vis prêt à faire la poutre. Ah, si j'en avais le temps, je procéderais sur toi, Ryan, Coco, Ryan. Et sur toi, Ladislas, Coco. Un exorcisme flash, mais l'heure tourne, comme le moteur de ma camionnette bâché cuir clouté noir, garé au bois de boubou, où je suis très attendu. Alors je vous souhaite une bonne émission.
Merci.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
On parle de Let's Dance aujourd'hui, le premier film de Ladislas Chola, demain au cinéma avec Alexia Giordano et Ryan Bensetti qui est notre invité également aux côtés de Ladislas. Tout de suite, voici Agnès Hurtel.
Bonjour. Hier, c'était la journée de la procrastination.
Ah oui.
Donc, je devais écrire ma chronique.
Donc, tu le fais aujourd'hui.
Bah, et je me suis dit, non, je peux pas, faut que je commémore, donc je l'écrirai demain. Mais là, on est demain et j'ai rien.
Okay.
Non,
merci.
Je déconne.
Bravo,
je ne suis pas capable de faire une Frédéric Bedbedat. Je ne manie pas la nonchalance et l'aftershave avec autant de panache. Puis, de toute façon, moi, j'ai jamais réussi à rentrer en boîte de nuit. Donc, c'est pas possible. Procrastination. C'est pas un mot de dingue, franchement. C'est bizarre. Moi, j'ai toujours confondu le mot procrastination et le mot prostate.
Ah bon.
Non, mais je suis franche avec vous, c'est assez proche
c'est
finalement.
Lié, c'est lié.
Et oui, regardez. Si tu imagines une journée mondiale de la prostate, je sais pas s'il y en a une quelque part fourrée entre la fête des mères et la journée nationale de la saucisse végétale. Moi, en tout cas, si j'étais un gars, tu vois, je m'appelle Bastien, je suis chez moi, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de monter une start-up, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai juste envie de me faire kiffer. Bah direct, je me mets un doigt. voire deux. Et du coup, sans même le faire exprès, je fête simultanément la fête de la prostate et la fête de la procrastination. C'est magnifique.
Agnès.
Tu vois, je me suis sorti les doigts de la tête et j'ai fait une chronique.
France Inter.
Non, mais c'est pas normal. Je suis très malade, je suis sous médicaments, c'est pour ça. Ma question aujourd'hui pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tous les jours une journée mondiale de quelque chose ? Il n'y en a pas marre à la fin ? Il faut à ce point-là nous trouver une raison de se lever, c'est notre petite carotte. Je préfère vous prévenir tout de suite, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de rien du tout. Je sais pas, voilà. Est-ce que quelqu'un a envie de crever ? Non, pas plus que d'habitude. Voilà. Bon. Demain, en revanche, attention, grosse actu, c'est à la fois la journée mondiale du théâtre et la journée nationale du fromage.
Ah,
c'est absurde, ça n'a pas de sens. Tout ce que je dis est vrai, il y a un site, journeemondiale.com. Ça n'a pas de sens, sauf si vous êtes un troubadour en ce moment même sur la place de l'Horloge à Avignon, en train de faire du diabolo et de réciter du Tchekhov, et que vous êtes un gros fanat de Caprice des Dieux. Là, c'est votre journée, faites-vous kiffer, mettez-vous des doigts, tout ça, tout ça.
Ensuite,
oh là là, chacun ses obsessions. Ensuite, quelques jours de néant, pas de journée mondiale de quoi que ce soit, juste la vie la pute. Puis, samedi 30 mars, youpi, ce sera la journée mondiale de l'endométriose. Et la journée des troubles bipolaires. Moi, je croyais qu'on appelait ça la Saint-Valentin, mais bon, pourquoi pas. 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme et journée du livre pour enfants. Là, je n'ai pas de vanne, je vous informe, je suis aussi là pour ça, je vous le rappelle. Mais le 7 avril, pétage de câble, je vous jure que c'est vrai. C'est la journée internationale de réflexion sur le génocide de 1994 au Rwanda et la journée mondiale de bataille d'oreiller.
Ça va bien les aider.
Bah là, j'ai pas de vanne. La vie est plus forte. Voilà, je vous rappelle que c'est également cette semaine l'ouverture de la fameuse saison des asperges et du pipi fleuri. Estimez-vous heureux que je n'ai pas fait une chronique de 3 minutes sur ce sujet-là. J'ai remis à plus tard.
Tu reviens à la prochaine.
Bisous les amis, bonne semaine et vive les doigts.
Merci.
Je rappelle qu'on commençait l'année avec Namasté à la fin d'une chronique. Quoi.
C'est hyper Namasté,
ouais,
les doigts.
Non, je sais pas. Ouais, je te laisse.
Dans quelques instants, nous recevrons Mathilde Monnier, chorégraphe, danseuse, qui a dirigé le Centre chorégraphique national de Montpellier, qui a également dirigé le Centre national de danse. On va en parler avec elle dans quelques instants. Mais d'abord, en musique, pour parler de Let's Dance, ce film qui sort demain au cinéma. En musique, qu'écouter Ryan Bensetti en 97.
Un petit chat
qui écoutait. Évidemment. Vous avez grandi avec les images de Michael Jackson, les clips.
Ouais, les clips de Michael, la musique. Le ménage se faisait sur la... Alors, bizarrement, j'ai eu Michael Jackson et Shep Khaled, hein, donc
Mais ça marche.
Ouais, mais ça marche. Mais j'ai vraiment grandi avec ça, ouais.
Et vous chantiez ?
Ouais, mais à la maison.
97, cette année-là, Ryan, pour évoquer... vous avez 4 ans, vous entrez dans une agence de mannequins pour enfants.
Ouais.
Et vous commencez
à 4 ans,
ouais. À poser pour quelques publicités. Qu'est-ce qui a déclenché vos parents?
Moi, j'y suis pour rien. Tu sais, c'est les mamans très fières de leurs petits enfants qui disent bon bah mon fils c'est le plus beau. Tiens, va faire des photos. Il est beau mon fils. Tiens, va faire des photos. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, là, on m'a pris dans une agence. C'était vraiment du hasard. Donc, je faisais des petites pubs quoi.
Non, plein de pubs. Carrefour, McDo, Toys R Us.
J'en ai fait.
Des catalogues, des machins.
C'est une façon quoi d'avoir un petit pécule à la majorité, d'avoir un peu de sous de côté?
À la base, on va dire ça.
Normalement, les parents sont censés ne pas toucher l'argent et attendre que vous soyez majeur pour vous le remettre.
Enfin, une discussion avec ta maman.
Je faisais tout ça gratuitement, mais je suis con alors. Franchement, j'en ai pas fait beaucoup. Et tu sais, vers 6-7 ans, j'ai perdu mes chicots.
Ouais, mais
j'ai perdu mes dents et on m'a vite viré de cette parce que
c'est moins vendeur sans dents.
C'est normal, c'est dents de lait.
Oui, mais bon, pour faire une pub pour les artichauts, c'est compliqué. Je pouvais pas.
Pouvais faire de la promo pour Michel Houellebecq.
Assois. Bien. Ladislas Chola, vous écoutiez-vous? Et cette dépression que vous avez eue en 97, expliquez-nous. Comment vous êtes sorti la distance chola?
Non mais je vous avoue, j'ai mis des musiques que je mettais dans mes spectacles de l'époque. Ça, j'avais mis ça dans une pièce de Ionescu qui s'appelait Macbeth. Et j'adorais Marianne Faithfull qui chantait ça. Mais c'est en effet hyper dépressif, hein, je dois le reconnaître. Là, il y a pas de doute.
Vous étiez à Aix-en-Provence?
J'étudiais à Aix, ouais, à la fac d'Aix, mais je vis à Marseille.
Des études de lettres modernes, c'est ça. Et vous créez votre compagnie professionnelle, même si depuis la quatrième, on l'a dit, vous montiez des spectacles chaque année. Le théâtre de l'Héliotrope. Et en fait, vous faites la connaissance de Gildas Bourdet.
Oui, exactement.
Et ça, c'est un élément déclencheur.
Oui, oui, c'est quelqu'un, lui aussi, qui m'a fait confiance, qui m'a beaucoup appris mon métier. Parce que moi, je venais du théâtre amateur, et puis d'un coup, je me suis retrouvé à la crier. J'étais son assistant, mais avec tous les moyens d'international. Pour moi, c'était genre le rêve, quoi. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment du théâtre avec rien, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je ramassais les cartons à la sortie des magasins, je collais tout ça pour faire des meubles. Enfin, je partais vraiment de rien. Et d'un coup, je découvrais les moyens qu'on peut avoir pour créer. C'était assez génial, cette période-là.
Et ce qui est assez fort aussi dans le film, c'est dans votre parcours, c'est l'itinéraire entre le subventionné et le privé, le classique, les auteurs contemporains. J'ai la sensation que il y a aucune barrière pour vous.
Oui, moi je suis hyper éclectique en fait. Je vais, mais en fait, je fais ce qui me correspond à moi. C'est-à-dire que moi j'aime aussi bien la pop que la musique classique, et donc dans mon métier je fais ça. C'est-à-dire que je vais vers tout ce qui m'intéresse. Je suis curieux de tout en fait. Donc voilà.
Espèce de curry artistique, quoi, le mélange.
Voilà, c'est ça, c'est un bon concept.
Un mélange épicé de tous les genres.
Ça peut être un avantage, mais ça peut être aussi un inconvénient, au sens où être un peu touche-à-tout, c'est pas forcément être identifiable, et on sait très bien que parfois on a besoin d'avoir...
C'est un peu compliqué en France, en fait, parce qu'en France, on adore mettre les gens dans des petits tiroirs et tout, mais moi, vraiment, ça m'intéresse pas du tout, et c'est pas un problème pour moi de pas être identifiable, franchement, voilà.
En 2008, Ryan Benzetti, écoutez...
Les soirées de samedi soir, quelques fois ça me descend.
Pour regarder la vidéo aujourd'hui, parce que dès qu'il y a de la musique, Ryan Benzetti s'anime. Déjà qu'il est déjà assez animé comme ça, mais là c'est la fête, quoi.
Oui, section d'assaut, ouais. J'écoutais, c'était toutes mes années lycée.
Vous êtes potes avec eux, non?
Ouais, maintenant, ouais. Alors pas tous, mais Lefa, Black M.
Parce que j'attends que Daniel Morin fasse la vanne sur Black M, puisque Ryan Benzetti était venu chanter dans Taratata avec
Black M. C'est vous qui avez un problème avec lui. Vous l'obligez à chanter avec Andrew Manoff, si ça c'est pas un problème pour lui.
C'est lui qui l'invite.
Attends, excuse-moi, si ça c'est pas un sale coup.
Et Ryan, 2008, c'est votre premier rôle à la télévision, dans Mystère à la colo, sur TF1. Alors, vous nous avez expliqué comment vous êtes arrivé dans l'agence de mannequins. Maman, mon fils est le plus beau. Comment on arrive dans un casting pour décrocher un rôle à la télé?
Alors, papa, mon fils est le plus beau.
Alors là, justement, j'étais un peu en recherche. Là, je savais que je voulais faire ça. Et je faisais beaucoup de figuration à cette époque. Et là, en fait, je regardais de partout. Il y avait des castings dans les journaux. Et en fait, on cherchait vraiment pour le coup avec ma mère. Et ma mère m'a dit, attends, il y a un truc que j'ai vu dans le journal. Ça s'appelle Mystère à la colo. Écoute, passe le casting.
Ouais.
Et vous étiez fan de qui? D'abord, vous étiez fan d'un comédien. Est-ce que vous vouliez être James Dean?
DiCaprio. Moi, c'était DiCaprio. Aujourd'hui, ce serait Tom Hardy. Parce que voilà, je suis ultra fan de ce gars. Et après, en français, moi, j'adorais le parcours de Jean Dujardin.
Ça c'est pas de référence, hein.
Bon, ça va, je me suis pas trop mouillé, je t'avoue que.
Non, mais DiCaprio du jardin.
Tu vois, quand j'ai commencé à grandir et que j'ai vu qu'il faisait une série, puis qu'il faisait, tu vois, il y avait Bryce, il y avait machin, ça faisait vraiment. Je voulais en fait, si tu veux, ce parcours. Donc quand j'ai entendu parler d'une série TF1, tu vois, je me suis dit mais waouh. Et j'ai fait ce casting qui maintenant apparemment est en ligne parce que on me l'a ressorti dans plein d'émissions. Donc voilà, et j'ai passé ça et puis j'ai été pris pour ma première série.
Et vous avez continué quand même un peu le bac, parce qu'il faut quand même pas...
J'avais pas le choix, il y avait la mère derrière, mais si j'avais pu arrêter avant, j'aurais peut-être arrêté avant. Il fallait avoir 18 ans.
Vous avez connu les galères dont on parle dans le film, c'est-à-dire avoir peur du lendemain, ne pas savoir où dormir, pas savoir si on va avoir assez de francs à l'époque pour manger. D'euros, pardon. Assez d'euros pour manger.
Ça, je l'ai bien vécu pendant 3 ans.
On n'oublie pas ça. Hein.
Non, on n'oublie pas. Et puis, hormis le côté vraiment avoir vécu la galère, on a fait avec mon meilleur ami 3 mois vraiment dans la rue. Et quand, dans la rue, là, vraiment, pour le coup, on avait rien.
Vous avez tué des gens?
On voulait.
Quand vous dites dans la rue, c'est vraiment...
Non, dans la rue, c'est dans la rue. On a pris des valises, on est monté sur un toit, et on dormait sur un toit pendant 3 mois. avec mon meilleur
avec une poutre.
Il y avait pas de poutre, il y avait pas de poutre et j'avais pas peur du vide, tu vois, à cette époque-là.
Bizarre. On retient quoi de ces années-là? Parce qu'il y a deux écoles. Il y a celle de se dire, une fois qu'on commence à avoir un confort matériel, carpe diem, je claque, j'achète ce que je peux, je me régale, ou à l'inverse, j'économise par la peur du manque, justement, que j'ai connu.
Bah, ni l'un ni l'autre. Au final, je t'avoue que déjà, ça, on n'oublie jamais. On l'oublie jamais. Et puis, ça fait partie de notre vie. En fait, aujourd'hui, ce qui fait que je suis comme ça, c'est aussi par rapport à ce que j'ai vécu il y a quelques années. Donc, ça fait partie de moi. Et aujourd'hui, franchement, je suis pas en train de me dire l'argent que je gagne, je vais le mettre de côté. Et je suis pas en train de me dire non plus, je vais le claquer. Je profite. Je fais plaisir à mes amis.
Mais vous êtes
à
conscient
mes proches,
de la fragilité de la vie, quoi.
Bien sûr. Ah, bah là, j'en suis
vous
bien
êtes toujours
conscient.
Racketté par votre mère ou quoi? Parce que ça joue, hein.
Non, mais c'est justement, les parents, dans ce cas-là, est-ce qu'on leur dit qu'on est à la rue?
Ouais, on leur dit, et puis ils font comme ils peuvent, et parfois ils sont là, parfois ils sont pas là, et puis ouais. c'est comme ça aussi. Moi, je suis parti de Lyon pour arriver à Paris. Tu sais, quand les parents aussi prennent mal le fait que t'es parti, bon, bah, t'as voulu partir, démarre-toi maintenant,
ouais.
Tu vois. Mais,
ouais.
Je pouvais pas tout leur raconter non plus. Parce qu'il y avait des trucs,
Bon. La distance chola, vous écoutiez à ce moment-là, on est en 2008-2009.
C'est bien ça.
Ça fait ça.
Bonnie Tyler.
Shrek.
Oui, Shrek.
Mais c'était une autre BO avant, non? Encore avant Shrek, il me semble, c'était une autre BO. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette musique, vous, quand vous l'entendez? Parce que nous, on parle de BO, on parle de Shrek. Moi, je pense à la coiffure aussi de Bonnie Tyler.
En fait, elle m'évoque, encore une fois, j'ai mis des musiques que j'ai utilisées dans des spectacles. Donc, elle m'évoque un spectacle qui s'appelait 3 semaines à Pearl Paradis, qui parlait, en fait, de l'après 11 septembre. C'est une pièce d'Israël Horovitz, en fait, qui parle d'un père qui croit que son enfant a été écrasé par les tours du 11 septembre.
Ça s'appelait pas Trisha Matilde?
Non, c'était une autre pièce d'Horowitz, 3 semaines après le paradis, qui était un monologue très noir.
D'accord.
Mais c'est sur ce monologue-là que Lynn Renault et Pierre Lescure m'ont demandé de créer Trisha Matilde.
À Marigny,
ouais. Donc cette pièce, elle était assez fondatrice pour moi. Et puis c'est là où, encore une fois, Lynn est venue me tendre la main. C'est pour ça qu'elle est dans le film aussi aujourd'hui.
Et à cette époque-là, vous postuliez pour prendre la direction de théâtre?
Exactement, ouais.
Là, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce côté public-privé.
Ah ouais, ça a été compliqué, ouais. En fait, Trisha Matilde, ça a été mon premier succès au privé. Et suite à ça, en fait, j'ai eu un an et demi de galère. C'est qu'un an et demi, en fait, où j'ai perdu mon statut d'intermittent, etc.
Ouais.
Parce qu'en fait, j'étais entre public et privé, ce qui est très compliqué en France, ce qui fait très très peur.
Ouais. C'est honteux.
C'est honteux, ouais. Mais finalement, voilà, du coup, je suis parti vers le privé, j'ai été hyper heureux, et je suis hyper heureux, et je me sens très libre, en fait, dans ce théâtre-là.
Reparlons de la danse et de Let's Dance. Ce film sort demain au cinéma avec Ryan Bensetti, réalisé par Ladislas Chola. Mathilde Monnier, merci de venir à ce micro.
C'est génial d'avoir Mathilde Monnier à ce micro.
C'est la classe.
Ouais. Merci.
Chorégraphe, danseuse, directrice. Vous voulez qu'on vous présente? D'ailleurs, vous aimeriez qu'on retienne quoi comme titre, qu'on dise Mathilde Monnier, elle est...
Danseuse, voilà.
C'est
mon premier métier. On reste toujours danseur toute sa vie. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on traverse.
Et
moi, je suis danseuse d'abord.
Et regardez le documentaire de Claire Denis vers Mathilde pour faire plus ample connaissance avec Mathilde Monnier.
Bah c'est trop tard, elle est là maintenant.
C'est pour prolonger après.
Moi, je dis que ça serait même pas sympa. Alors qu'elle est là, vous regardez le documentaire.
Non, mais après. Je suis là.
Après.
Mathilde, j'imagine des parents qui nous écoutent ou des enfants et cette notion de j'ai envie de danser. D'abord, la première question, quand on voit l'âge auquel les enfants se retrouvent à la danse, est-ce que c'est pas un transfert que font les parents ou la maman en disant je vais te mettre à la danse parce que moi je pouvais pas, mais ça serait bien que tu commences, et puis on commence à 4 ans, à 5 ans, parce que sinon après c'est trop tard.
Oui, très souvent c'est un peu le désir de la mère, mais après il faut beaucoup de force et de ténacité pour continuer. Donc ça marche à un moment, on va dire, mais un enfant qui veut vraiment continuer, en général, c'est son propre désir, parce que ça passe pas la rampe après.
Et ça passe par des écoles de danse, des conservatoires, ça passe par l'école...
Quel est le chemin le plus sain?
Parce qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs autour des écoles de danse et autour de la manière dont les enfants sont traités.
Alors, ça passe par des écoles, par des conservatoires, soit des écoles privées, soit rentrer au conservatoire, ce qui est un conservatoire régional, ou alors, et après, on rentre dans le conservatoire national. Donc ça, c'est un peu, on va dire, le chemin classique. Mais alors, il y a aussi plein de possibilités, c'est aussi de faire plein de cours privés, de se former à l'étranger, de faire des stages. Il y a plein de chemins possibles, en fait, pour être danseur.
Est-ce que dans les écoles de danse, aujourd'hui, ça fait partie du clin d'œil fait dans le film de Ladislas Chola, Let's Dance, on mélange les genres plus qu'on ne faisait avant. Est-ce que dans les écoles de musique classique, on peut avoir quand même une ou deux heures de cours de hip-hop, une ou deux heures de cours de mime, d'expression corporelle ou de gym carrément physique qui n'ont rien à voir avec la danse classique, les pointes, les entrechats et les positions?
Alors, ça commence, il y a beaucoup plus de mélange. Les danseurs classiques font d'autres techniques, notamment de l'expression dramatique. Ils peuvent faire du contemporain. Il y a aussi tout un champ qu'on appelle le somatique, c'est plutôt toutes les techniques douces. Voilà, vous parliez de yoga tout à l'heure. Ils font par exemple du yoga.
C'est très tendance.
Très tendance. Ah, beaucoup de danseurs font du yoga. Moi-même, j'en fais. J'en ai fait ce matin. Mélange, il est pas si facile. Il est pas si facile. Mais je trouve que quand même, justement, dans les danses de rue, il y a tellement de nouvelles techniques qui arrivent, qui sont tellement passionnantes, que là, il y a vraiment des vrais mélanges avec, par exemple, le contemporain ou la danse moderne.
Donc, il y a moins de chapelles, il y a moins de sectes, entre guillemets, avec... ça continue... Ah, vous faites la tête, ça continue un peu.
Ah, il y en a encore, Forcément. Oui, il y en a encore, parce que c'est tellement spécifique et le niveau des danseurs est tellement haut, en hip-hop, en break, même dans voguing, dans le crump, et en classique, en contemporain. Les niveaux sont tellement sportifs.
Crump, voguing, c'est
quoi? Alors, le voguing, c'est Madonna, vous savez, c'est Madonna qui a lancé... Voilà, Vogue. Et puis le crump, c'est une technique qui vient de Los Angeles, qui est une technique presque tribale, en fait, assez agressive, qui est beaucoup dans l'eau du corps. Moi, j'adore, c'est une danse extraordinaire, hyper forte.
Qui s'approche de la danse africaine?
Ça vient des danses africaines, mais c'est enfin à la base, mais c'est quand même une danse très américaine qui est venue en France, qui a été importée. Et toutes ces techniques se mélangent, mais un danseur, c'est un sportif de très très haut niveau aujourd'hui. Donc en fait, il faut qu'il soit très spécialiste.
Alors, nous commençons par la danse classique. Est-ce que la mecque de la danse classique, c'est l'opéra, c'est Petit Rat, l'opéra de Paris, c'est...
Qu'on voit dans le film d'ailleurs.
Oui, la mecque, c'est l'opéra de Paris, ça c'est sûr. Mais quand on rentre à l'opéra de Paris, c'est pour rentrer dans le ballet de l'opéra. Ouais. Alors après, tous les danseurs qui ne rentrent pas dans le ballet de l'opéra, ils peuvent aller dans des compagnies nationales, internationales, dans des ballets.
Et il faut le préciser parce qu'il y a des personnes qui sont... Là aussi, il y a eu des documentaires, il y a eu beaucoup d'articles, il y a même des scandales autour de l'opéra. Il y a des filles qui sont, blessées, meurtries, mais psychologiquement, mentalement, de ne pas réussir une carrière.
Oui, parce qu'en fait,
des véritables blessures corporelles, parce que les pointes, c'est beau, la danse classique, c'est beau, mais on ne sort pas indemne de ce passage.
Non, parce qu'il faut le corps pour... Il faut être capable de faire des efforts incroyables, mais il faut le psychisme. C'est-à-dire, il faut vraiment tenir malgré les blessures. Un danseur se blesse tout le temps. Alors, dans le hip-hop, il y a 90% de blessures. C'est complètement fou. Il y a énormément de blessures. Dans le classique, je crois qu'on est à 70%. La danse contemporaine, on est à 60%. Donc, on fait avec les blessures. Toute sa vie, on est blessé. On a mal. On a presque mal tout le temps.
C'est encourageant. Vous allez susciter des vocations.
C'est super, Non, mais ça, c'est agréable. On aime bien avoir mal. On aime bien. On sent son corps. C'est super. Vous ressentez votre corps, voyez.
Je pense que c'est important de préciser que c'est un effort. Il y a beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus remarquable, c'est quand on voit un spectacle de danse à l'opéra ou un spectacle de hip-hop, la légèreté, la simplicité, le sourire avec lequel c'est fait, soi-disant au public en tout cas, fait oublier tout le travail, mais on se rend compte qu'il y a un boulot de fou.
Oui, c'est un boulot de fou et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un boulot au quotidien, c'est-à-dire ça s'arrête jamais. Ouais. C'est pas parce que vous êtes arrivé, mais dans le hip-hop, c'est pareil, les danseurs pratiquent tout le temps, c'est incroyable. Je veux dire, il faut vous lâcher un moment, le corps change, le corps évolue. Il faut tout le temps pratiquer.
Si pour la danse classique c'est l'opéra, la mecque pour le hip-hop c'est quoi?
Alors la mecque pour le hip-hop aujourd'hui, il y a deux CCN, c'est-à-dire Centre Chorégraphique National, qui sont donc deux CCN où on peut donc à La Rochelle et à Lyon où on peut
qui sont les références. Pratiquer,
qui sont des références. D'accord. Voilà, qui sont des références. Après c'est plutôt c'est le style, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est rencontrer quelqu'un, un aîné qui va qu'on a envie d'imiter, c'est aussi démarrer comme ça.
Et on peut s'arrêter un jour de faire de la danse ou pas?
Oui, moi je m'arrête pas en tout cas. Non, et en fait plus on vieillit, plus parfois le corps est mieux. C'est assez étonnant, c'est assez incroyable le Corse, que peu un Corse, c'est étonnant.
Le yoga, c'est vrai. Le yoga, il est peut-être pour quelque chose, non ?
Ouais, le yoga, c'est vraiment, je le conseille à tout le monde, vous qui êtes là, faites du yoga, c'est
à
vraiment...
À quel âge que ce soit ?
À quel âge que ce soit.
Et ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'avec l'émergence de la danse hip-hop et toutes ces danses comme ça qui sont considérées comme de la culture un peu plus périphérique, c'est aussi l'apparition de corps différents. De façon de se mouvoir différente, de couleurs aussi. Et dans, je trouve que dans l'espace visible de notre société, c'est hyper important de voir aussi des filles un peu plus épaisses que des danseuses classiques, plus petites, mais beaucoup plus vives. Et ça aussi, c'est hyper important. Dans le film, c'est ce qui est beau dans ce mélange.
Quand je vois travailler Marion Motin, c'est ce que j'adore, c'est qu'elle choisit les corps les plus divers.
On va parler après, parce qu'il y a un truc qui s'appelle les infos, et là, je vais vraiment faire déchirer ma tête. Merci mille fois, Mathilde.
Merci
mille fois d'être venu. Tanguy Pastureau, bonjour. Tanguy.
Bonjour Nagui.
Le président Macron a une phrase qui fait réagir.
Bah oui, il a souhaité à Madame Le Guay, cette personne de 73 ans qui à Nice a chuté lors d'une manif des Gilets jaunes, d'acquérir de la sagesse. Macron, c'est la France des chakras ouverts et de la position du PQ Leader Price. C'est comme la position du Lotus quand on a moins de moyens.
On en parle après les infos. Sur Inter avec Leïla Kadhafi, Agnès sur Stage, Tanguy Pastureau, Daniel Morin, Carole Gou,
bonjour,
et nos invités Ladislas Chola et Ryan Bertini.
Bonjour.
Ils se retrouvent tous les deux au cinéma, ça sera demain, ça s'appelle Let's Dance. On vous avait déjà vu au cinéma, Ryan Bensetti, notamment avec Thierry Lhermitte, si j'ai bonne mémoire.
Oui,
on en avait parlé à ce micro, on avait bien aimé, très touché par ce film aussi, sur la perte de mémoire, la maladie que subissait le personnage de Thierry Lhermitte, tout ça autour du football aussi.
Basket. C'est basket,
basket. Non, basket, et puis après il y a la finale de la Coupe du Monde de football.
Ah oui, oh là là,
se souvient de tout.
Bravo.
Nagui, regarde, les 5 premières, les 5 dernières minutes des films, alors ça on va pas lui faire, ça je peux te le dire. Ça il est au courant.
Je suis désolé, tout le long du film, il y a une allusion faite à ça.
C'est vrai. C'est vrai.
Le problème de la mémoire de Thierry Lhermitte. Tu ne mourras pas, Daniel Morin.
Bravo.
Quant à vous, Ladislas Chola, pour premier film sur la danse. Alors, d'après ce que j'ai compris, mais dites-moi ce qui est vrai et ce qui est faux, vous n'étiez pas l'initiative du film sur la danse. Ce sont les producteurs qui sont venus vous voir en disant « Nous faisons un film sur la danse. Voilà le film. Est-ce que vous voulez le faire ?» Et vous avez voulu vous approprier en fait l'histoire en gardant le cadre donné par les producteurs.
Oui, en fait, ils avaient acheté les droits d'un scénario qui s'appelle Street Dance 3D. Et en fait, quand j'ai lu le scénario, à la fois l'idée de faire un film de danse me passionnait, parce que tout de suite j'ai senti ce que je pouvais en faire, mais le scénario me passionnait moins, et du coup je leur ai dit non, moi j'y vais pas, et là ils m'ont dit si tu vas y aller, mais t'as le droit de tout réécrire si tu veux.
Mais les valeurs que vous transmettez dans le film, justement, de confiance en soi, de dépassement, d'aller au bout de ses rêves, de tout ce qu'on a, même déjà beaucoup entendu, beaucoup vu au cinéma, la manière dont vous vouliez, vous, le faire passer, aurait pu s'exprimer dans un autre art ou dans carrément un autre métier?
Oui, parce qu'en fait, très franchement, ce film, ça parle de la vocation, de la naissance d'une vocation. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il dépasse complètement le cadre de la danse en fin de compte. C'est-à-dire que ça aurait pu en effet totalement exister dans un autre métier. Ce qui est génial avec la danse, c'est que c'est magnifique à filmer et que ça amène de la beauté, en fait, dans le film, de l'énergie et de la beauté.
Et Ryan Bensetti, alors comment se retrouver dans un film justement où on est à la fois physiquement mis à l'épreuve, parce que c'est le moins qu'on puisse dire, vous bougez bien, musculairement, il y a une préparation particulière
Calme-toi.
Il y a... Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que tu veux ?
C'est quoi vos secrets beauté, quoi ?
Voilà, merci. Voilà, quelqu'un qui enchaîne, voilà, merci.
Merci. Premier geste le matin. Non, mais parce que c'est plus qu'un film, entre guillemets, normal, avec justement un texte pour une fois que vous pouvez apprendre, avec des italiennes, des répétitions à faire, des déplacements. Là, il y a en plus la chorégraphie, c'est presque deux métiers différents.
Ouais, et pour le coup, c'était un vrai défi, parce que tous les danseurs sont des danseurs pros, et je voulais pas tricher, je voulais pas de doublure pour les acrobaties, je voulais vraiment tout faire. Donc il y avait un vrai défi. Voilà, je me suis dit, bon, bah, pourquoi moi, quand je fais ce pas et que lui fait ce pas, c'est en soi le même, ça, on n'a pas le même rendu tous les deux.
C'est quand même, parce que lui est danseur et vous,
voilà,
moi.
Mais oui, mais sauf que
enfin, vous avez fait danse avec les stars quand même. Donc
ouais, mais tu sais, ça aide pas vraiment. Hein. Ouais, beaucoup de gens justement pensent que Danse avec les stars ça m'a beaucoup aidé pour ce film.
Vous avez bossé, en tout cas.
Ouais, mais tu sais, Danse avec les stars, chaque semaine on apprend une nouvelle danse. Donc en fait, t'as pas vraiment le temps d'apprendre la danse parfaitement. Là, en fait, j'avais un mois et demi. Je me suis entraîné un mois et demi avant le film, vraiment pour apprendre que le hip-hop. Et que tu vois les chorés qu'on voit dans le film, donc c'est beaucoup plus d'entraînement, c'est beaucoup plus physique que Danse avec les Stars, et ouais c'était aussi plus d'entraînement pour moi que pour les autres danseurs, parce que fallait que je me mette à leur niveau et pas faire tâche dans le groupe.
Ça fonctionne extrêmement bien. En plus, il y a quand même le jeu d'acteur au milieu des danses, des chorégraphies, parce qu'il y a des regards, parce qu'il y a des interprétations, et on le disait tout à l'heure, peut-être même par moments des provocations ou des séductions autour de la danse. Donc il y a le travail, et puis il y a la magie du montage, du travail du réalisateur quand même, parce que là il y a un moment où il faut dire la vérité. Ryan Massetti fait 2-3 pirouettes, on se dit c'est Magic Johnson, il va jamais atterrir vu les plans de caméra. Le mec, il a pris il a plus de vertige. Descends.
Alors il y a en effet
ça. C'est Olivier
Tom, quoi. Il y a en effet ça. T'entends un petit côté Olivier Tom. Belle référence d'ailleurs qu'on peut avoir en commun, Olivier Tom. Mais après il y a aussi des plans séquences. Il y a des plans où vraiment j'ai pas triché. Il y a un mélange en fait de plans où en effet on essaie de magnifier, de pousser les choses.
Le générique de début est dingue.
Voilà. Ouais, le générique de début c'est un rêve, donc il fallait que ça fasse rêver, quoi.
Formidable. Continue d'en parler de Let's Dance, ce film qui sort demain au cinéma et qu'on vous encourage à voir. Et je le redis, en famille, les petits et grands, vous pouvez profiter de ce film. Voici Tanguy Pastureau. Justement, Tanguy, vous n'êtes plus tout jeune, si je peux me permettre.
Non, j'ai 45 ans et peu à peu, je sombre. J'ai des lunettes de vue, mal à la hanche, j'ai moins de cheveux. À la boulangerie, la dame m'appelle monsieur, du coup, j'ai arrêté le pain. Le cordonnier de ma rue m'appelle jeune homme, donc à la place, je mange des chaussures. Et je commence à penser que c'était mieux avant. Vieillir, c'est atroce. Je m'adresse à Ryan Bensetti, qui est jeune, ne le faites pas. Hein, moi qui ai la hantise des ascenseurs, je monte à France Inter à pied, pas de bol, on est au 6e à 45 piges. Quand j'arrive, je suis claqué, en sueur, tel le taureau de Camargue qui verrait débouler dans son champ Anne Romanoff en liquide rouge. Pour la saison prochaine, j'ai demandé à bosser à l'accueil, au rez-de-chaussée. La seule chose qui est super quand on vieillit, c'est qu'on est libre. Plus d'employeurs à qui rendre des comptes, à part Drucker qui bossera jusqu'au dernier instant. S'il décède un jour, ce qui est peu probable, au curé venu le voir sur son lit de mort, il dira « Allez, parlons de vous, quelle est votre actu ?» Plus de famille non plus, ils sont partis. Quand on est âgé, on peut fumer des bédos en mettant Pawn Star sans avoir à justifier. Tiens, prenez Geneviève Leguet, cette dame de 73 ans, 51 selon la police. Samedi à Nice, elle a pris part à une manif gilet jaune dont la tenue avait été interdite. Dans sa tête, elle s'est dit « Je suis senior, c'est pas pour lire le magazine Pleine Vie en tricotant des moves pour ma nièce. Rock'n'roll !» Elle est sortie manifester quand même. Le senior ne respecte rien, c'est un ouf, un déglingos. Les pattes de Nancy, potentiellement, constituent un plus gros danger pour l'establishment qu'un groupe d'anarchistes sous poppers. Le vieux est un punk à chien, à Yorkshire plus précisément. Sauf qu'à un moment, les CRS sont chargés, parce qu'il y a deux choses qu'ils savent faire, charger et annoncer qu'ils vont charger. Et cette dame a chuté, son crâne a percuté le bitume, il y a eu du sang. Les images sont moins sympas à voir que la scène de Rosemary's Baby où la nana donne naissance au fils de Belzébuth. Là, deux camps se sont créés. Les pros Madame Leguet, qui évoque une martyre et annonce une manif en son honneur avec en live un groupe de rasta blancs anticapitalistes qui joueront l'international au djembé. Et les anti Madame Leguet, qui en gros disent « elle l'a bien cherché, Tati Daniel, la police aurait dû en plus lui confisquer sa carte SNCF Senior Plus et la photo de Guillaume Meurice que cette gauchiste a forcément dans son portefeuille. Quant au président Macron, notre louveteau sans poil, il a dit qu'il souhaitait que Geneviève Leguet sorte vite de l'hôpital pour libérer un lit, parce qu'ils sont à flux tendu. Hein, moi j'ai un oncle qui a dû s'auto-opérer de l'appendicite, il s'est découpé le bide avec un couteau à huître, c'est un breton de Cancale. Macron a ajouté « Je souhaite la quiétude à sa famille ». La dame souffre de plusieurs fractures du crâne. Donc là, ils sont dans une quiétude relative. Hein, la même que celle du maire du Mans quand il a vu les forains attaquer sa ville hier à coups de gros chourous en bois.
Bon, le président Macron a quand même souhaité à cette dame un prompt rétablissement.
Oui, et alors, a-t-il ajouté une forme de sagesse. Macron, c'est le nouveau Dalai Lama. Il va finir en robe de bure au Tibet à fumer des yaks. Or, Madame Le Guay est une militante d'Attaque, l'association qui œuvre contre le capitalisme. Vous lui montrez une photo de Bernard Arnault, sa tête fait 4 tours à 360 degrés et se met à fumer. Ce sont des gens qui, quand vous les invitez aux 15 jours de folie au champ, vous envoient balader, malgré la promo sur le blanc. Donc elle n'est pas sage. Et tant mieux, parce qu'on n'est pas dans un ashram, les mecs. En France, à 73 ans, on a le droit d'être déjanté. Notre vie n'est pas qu'un long chemin qui nous mène vers la sagesse et la béatitude. Et après, on se retrouve quoi ? À mourir en position
position du lotus, avec Dieu au ciel qui vous dit « Bébé, pourquoi ta jambe droite est-elle derrière ta nuque? T'as été mal désincarcéré par les pompiers après un accident de la route ?» Non, vieillir, c'est être libre. Moi, là, si j'étais Arlette Chabot, je resterais pas à moisir sur LCI à attendre que Pujadas m'offre un jus de pomme. Je me ferais une crête, enfilerais un perfecto avec marqué « Fuck Bouygues » derrière avec des clous, et je crierais à Alain Duhamel, si tu m'entends, c'est toi et moi à main nue dans l'octogone. Tu vas payer pour cette chronique sur le canuet que tu m'as pompé en 76. Ce que je veux dire, c'est que cette dame, Madame Le Guay, dont le nom suffirait à faire convulser Christine Boutin si cette dernière n'avait pas pris sa retraite à l'abbaye de la Nonne-Perchée de Trouperdu dans la Nièvre, n'a pas à recevoir d'injonction à être sage à cause de son âge. Quand on a 40 ou 45 piges comme Macron ou moi, on voit déjà à quel point nos vies sont ennuyeuses. Lui aussi un jour va se réveiller et dire à Merkel, mein Lulut, désolé mais j'y crois plus, l'Europe c'est chiant, allez viens on vend tout aux Chinois. Même moi j'ai envie de briser tous les carcans, venir comme une fleur à midi 20. Et là Nagui, vous me direz trop tard, c'est à Daniel Morin. Et bon, je perdrai ma place donc je vais pas le faire, mais dans 30 ans je serai un vrai punk. Et là le premier petit quick qui me dira papy va vers la sagesse, je lui montrerai le doigt du milieu si j'ai pas trop d'arthrose.
Merci. C'est la journée du doigt.
C'est la journée des
wads.
Hein.
C'est la journée des
wads. Ouais. Avec les doigts.
Qu'est-ce qui se passe? C'est dingue. Ça fait partie de la bande originale du film Let's Dance qui sort demain au cinéma. Une BO dense, évidemment, un film musical nécessite une marque musicale, non?
Oui, et puis il fallait aussi que les musiques soient choisies très tôt, dense et en avance, parce qu'il fallait que
Marion
Cotillard puisse travailler. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, les musiques, on les a choisies vraiment très très tôt, très en amont, et puis il fallait qu'on soit d'accord avec Marion, qu'elle soit inspirée, et puis que moi, ça serve mon film. Donc voilà, ça a été long.
Alors justement, qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans ce film? Ça a été l'écriture du scénario, puisque vous êtes collé à cette tâche, vous étiez deux. Hein,
avec Joris Morio, ouais, un super scénariste.
À réécrire, entre guillemets, cette histoire et à vous l'approprier en restant dans le milieu de la danse. Ça a été de diriger des comédiens qui, pour certains, faisaient leur premier film et à qui il fallait apprendre le métier. C'était de filmer la danse, comme l'a dit Leïla tout à l'heure, qui est un exercice extrêmement délicat, qui est réussi, qui est transformé, bravo, sur l'aide. Comment, avec le recul?
Très franchement, en fait, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais rien n'a été dur parce que en fait, j'ai adoré tout ce que j'ai fait
trop
dans
fort,
ce film.
Trop fort.
Non, mais vraiment, non, mais c'est vrai.
Mais comment
c'est
il se la pète?
Non, mais ça fait un peu de mec qui se la pète, mais en fait, moi j'ai tout aimé dans le cinéma. J'ai adoré ce métier-là. C'est un métier magnifique d'être réalisateur.
Zéro
toutes
galère.
Les étapes, non, pas du tout.
La technique, la lumière, ouais. La préparation.
Non, mais très franchement,
j'étais sur le plateau, je peux te dire qu'il y a des.
Non, mais un peu de galère du tout.
Non, il y a des plans séquences longs.
Oui, non, mais il y a des choses un peu compliquées à mettre en place, mais j'avais des techniciens géniaux. Ouais. On a des techniciens géniaux en France qui adorent le cinéma, passionnés. J'avais franchement des acteurs de rêve.
Ah, il y avait que de l'amour et de la passion.
Non,
ça,
mais,
c'est vrai.
Non, mais Guillaume de Tonquédec, par exemple, voilà, qui m'a dit oui, qui a accepté ce rôle. C'est un mec tellement sympa, tellement ouvert. Ouais. Ryan, c'est le chien fou du cinéma français. Il est, on dit action, il est à fond, il propose plein de trucs. Tout était comme ça, mais vraiment, tout était comme ça. Et du coup, je dois dire que franchement, rien n'était difficile. La seule chose que j'espère, c'est qu'il y aura un peu du monde dans les salles demain pour que je puisse très vite retourner un deuxième film, j'ai qu'une envie, c'est de retourner faire du cinéma. Ah
ouais. Et pour voilà. Vous, Ryan, ce qui a été difficile, on parlait tout à l'heure de la préparation physique, des répétitions de danse, de la direction de Marion Motin. On sait son parcours, on la connaît, et on sait qu'elle a travaillé avec les plus grandes stars musicales du monde et de la danse. Mais comment est-elle justement avec des personnes dont ce n'est pas particulièrement le métier?
Bah justement, en fait, elle m'a mis un gros coup de pression. J'en ai eu
j'ai
un
peur.
Très très gros.
Moi aussi, mais c'est pas possible.
J'ai peur du WAD.
C'est
le test. T'as fait les doigts dans le nez.
Voilà. Merci.
Un gros coup de pression.
Et en fait, j'ai eu un gros coup de pression parce que elle m'a fait vraiment ce qu'on m'a fait en casting. Donc, on a été dans une salle de danse. Elle m'a dit, bah vas-y, montre-moi ce que tu sais faire.
T'es pas capable, quoi.
Ouais.
Un peu provocant.
Un peu ce que tu vois dans le film.
D'accord.
Moins brutal, mais ouais. Bah vas-y, montre-moi. Et en fait, vraiment, quand on a le stress, un tout petit blocage en danse, c'est mort. Qu'est-ce qui se passe?
Non, je crois qu'elle est. Elle est sur les deux. Non, mais les deux filles sont parties.
Ah, c'est
deux.
Sur les watts, il y a des
En même temps, comme il y en a 10 en tout, ça va être très compliqué. Là,
et en fait, ouais, elle m'a dit, bah vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. Moi, j'avais pas d'enchaînement. Je savais faire une acrobatie, deux, trois trucs, mais j'étais incapable de faire un vrai enchaînement. Donc, quand en plus t'as ce blocage dans la tête, c'est très dur de montrer quelque chose en danse. Et en fait, elle m'a appris que c'est eux, ils dansent depuis 20 ans. Je ne pourrais pas faire la même chose. Donc moi, par rapport à ce que je fais et par rapport à mes facilités, on va aussi essayer de danser de cette manière ou d'essayer d'incorporer, on va dire, des mouvements aussi que je connais dans la Corée. Donc elle a vraiment bossé avec moi. Elle a été hyper à l'écoute, mais
il faut avoir alors les critères idéaux. C'est d'avoir le physique, évidemment, d'avoir l'équilibre, les muscles, mais aussi d'avoir le sens du rythme. Ça s'apprend pas, le sens du rythme.
C'est ça. En fait, moi, tu sais,
sur le. Et après, il y a l'interprétation, il y a ce que l'on ressent à l'intérieur et la manière dont on le.
Ouais.
Transmet.
Le côté joué, si tu veux, ça allait encore parce que c'est mon métier. Mais après, tu sais, moi, sur Danse avec les Stars, déjà, j'avais tout le temps Denitsa qui souriait, qui me disait 5, 6, 7, 8.
Qui était ta coach.
Qui était ma coach, ouais. Et qui m'aidait surtout pour les comptes parce que je savais jamais quand partir. Donc là, de partir tout seul avec tous les danseurs, sur les comptes, sur les moments musicaux, il y a des moments où j'avais la chorégraphie, mais j'étais pas en rythme, où j'étais pas. Et ça, c'était compliqué à faire. Et dans le film, il y a un plan séquence où voilà, pour montrer que c'est quand même nous les danseurs.
Et en fait, que c'est pas truqué, que
c'est pas
doublé.
Et justement, ouais. Ce plan séquence a été très long pour moi parce qu'il a fallu le faire, le refaire, le refaire, le refaire toute la journée. Et tout ce qui a été dansé, en tout cas dans le film, c'était assez compliqué pour moi.
C'est un défi. On rappelle un plan séquence, il n'y a aucune coupe, aucun trucage. À partir du moment où on dit moteur, de la première image à la dernière image du plan, rien n'a été monté, rien n'a été truqué. Ça, c'était un défi que vous vouliez vous lancer, Ladislas Chola, d'avoir dans votre premier film un plan séquence.
Oui, parce que déjà, moi qui viens du théâtre, en fait, le théâtre, c'est finalement un long plan séquence.
Il n'y a pas de filet.
Donc j'ai essayé en fait, d'en avoir beaucoup. Et après, j'ai compris, et d'ailleurs, on m'a averti, on me dit, attention, ne mets pas trop de plan séquence dans ton film, parce que ça. Tu ne vas plus maîtriser le rythme de ton film au montage, parce qu'un plan séquence, on ne peut plus le couper à l'intérieur, ou alors on le gâche, etc. Donc en fait, j'en ai fait quelques-uns, dont ce plan-là, qui dure 2 minutes et demie, mais qui est génial quand on le réussit. C'est-à-dire qu'on avait commencé à tourner à 9h, à 15h, je n'avais rien dans la caméra, rien dans la boîte, en fait.
Rien.
Et là, il y a tous les producteurs qui arrivent, qui vont se dire, mais tu n'as rien enregistré aujourd'hui? Non, mais parce que c'était pas satisfaisant, j'avais pas encore ce que je voulais. Puis, à un moment donné, on l'a, et là, c'est une victoire, quoi. On a l'impression d'avoir remporté un match de foot. C'est super.
Quelles sont vos références cinématographiques donc pour ce film? Moi j'ai pensé à Flashdance et Rocky, mais il doit y en avoir d'autres.
Billy Elliot c'en est une, Black Swan c'en est une aussi, et après très franchement en fait je fonctionne pas tant par référence, j'essaie toujours d'avoir une image dans la tête et de dérouler ce que j'ai dans ma tête, alors qu'au cinéma je m'apercevais que les techniciens bossaient beaucoup en référence, et j'ai eu quelqu'un qui m'a aidé à faire une sorte de cahier de tendance où on a réuni toute une série d'images pour pouvoir exprimer ce que j'avais dans la tête, ce qui m'a aidé.
Il y a une valeur dont on n'a pas parlé et qui pour moi est une valeur essentielle dans ce film, c'est que évidemment il faut croire en soi, évidemment il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que le talent, il y a aussi cette espèce de, je sais pas si on peut parler d'amour propre ou de prétention, mais de dire moi je vais y arriver, ça veut pas dire forcément marcher sur la tête des autres, ça veut simplement dire croire en soi et se battre pour y arriver, mais il y a aussi le respect de la passion de l'autre par amour, et que si on aime réellement quelqu'un, il faut pas le contraindre, il faut le laisser vivre sa passion librement.
Oui, bien sûr. En fait, ce que je voulais, c'est que ça soit avant tout des artistes, et que moi, je vois le soir d'une première au théâtre, il peut arriver quoi que ce soit dans ma vie, mes enfants peuvent être malades, je serai à ma première au théâtre, en fait. Et même si c'est dur, en fait, à vivre pour les autres parfois, mais en effet, nos passions demandent à ce qu'on nous aime librement dans nos passions. Et j'ai été très heureux de rencontrer dans ma vie une personne qui m'aime et qui m'accepte dans cette passion-là, qui est la mienne. Donc en effet, il y a ça dans le film. Aimer l'autre, en fait, dans sa liberté.
Personne ne l'aime, personne ne l'accepte. Merci d'accueillir Daniel Moura.
Ah Nagui, n'insistez pas, vous n'aurez pas ma mauvaise humeur, car aujourd'hui les amis, je suis si heureux. Oh oui, je suis pris d'une émotion joyeuse, d'une émotion vivifiante, d'une émotion jubilatoire, et ce grâce à vous, messieurs Chola et Bensetti. Oh Ladislas, Ryan, votre film Let's Dance m'a mis dans une joie totale et communicative. Depuis que j'ai vu le film, je me suis mis à la danse. Oui, c'est idiot tout ce temps que j'ai perdu passé à ne pas danser, et pourtant depuis toujours mon entourage me le disait, me le répétait.
Non, sérieux, Daniel, mais toi, la danse, tu as un corps fait pour ça. Agile comme le félin, souple comme le roseau, puissant comme le minotaure, vicieux comme le nagui, la danse est fait pour toi. Tu as ça dans le sang, mec. Rien que quand tu marches, on sent chez toi la ballerine qui sommeille. Du coup, je me suis lancé. C'est vrai que je suis fait pour ça. La musique me transporte. Je fais ce que je veux de mon corps. J'ai l'impression de dompter les éléments qui m'entourent. L'air, le sol, les vibes du monde, quoi. Hier, j'ai fait mon jogging en moonwalk. C'était ahurissant. Pareil que Michael Jackson. La ressemblance était si frappante avec lui que sur mon passage, les gens protégeaient leurs enfants. J'ai enchaîné chez moi avec la femme de ménage dans un tango des plus sulfureux. Oh la pauvre, elle perdait la boule. J'avais le bassin en feu. Mes mouvements de hanche l'ont fait tourbillonner jusqu'à l'extase. Nos températures corporelles sont montées jusqu'à 42 degrés. Elle n'avait plus qu'un choix, s'évanouir ou prendre du plaisir. Bon, elle a pris une troisième option, elle a vomi. Oh. Quelle conne. Le soir, en rentrant de la boulangerie, je ne sais pas ce qui m'a pris. Le démon de la danse, encore une fois. Ah, je suis parti dans une samba stratosphérique. Ah, le kiff, là je contrôlais plus mon corps, c'est lui qui avait pris le pouvoir. Au fur et à mesure que j'avançais, la foule aussi était prise aussi par la trance latino que je sublimais de mon rythme impeccable. J'ai même vu un handicapé se lever de son siège et partir en roucoulade pelvienne. Bon, au bout de 5 mètres, les hanches ont pété, il s'est écroulé au sol, mais c'est pas grave. Il était heureux de ces quelques secondes de mobilité retrouvées. Arrivé place d'Italie, on était plus de 150 000 à nous déhancher comme des autochtones du tiers-monde. Et ce matin encore, oh, comme la danse et le partage, la transmission, la générosité, la fusion. J'ai dansé une valse dans le hall de Radio France. J'ai dansé avec un vigile bourru, mais d'une grande sensibilité. Oh, et d'un seul coup, porté par la féerie de mon fouetté viennois, il n'était plus Robert, le vigile taciturne. Il était devenu Sissi impératrice, la coquine un peu prude. Arrivé au pied de l'ascenseur, on s'est embrassé, mais l'aventure s'est arrêtée là. On avait kiffé la valse, on était prêt à aller plus loin, et pourquoi pas envisager un bout de chemin ensemble, à base d'emprunts immobiliers, de fécondation in vitro, mais c'était pas raisonnable. Puis je suis arrivé au sixième, je vous ai vu, et là j'ai compris que ma vie, c'était la danse. Merci de m'avoir révélé à ma nouvelle passion. Je vous laisse, j'ai rendez-vous au sous-sol avec Nicolas Demorand, Laura Adler, Jean Lebrun et d'autres fans de danse. On va répéter un monument de la danse, on va répéter une chenille. Merci, à demain.
Sorti demain au cinéma de ce film Let's Dance avec Ryan Bencetti. C'est le premier film de Ladislas Chola. Les deux étaient nos invités. Il y a également dans le film Alexia Giordano qui est formidable. Guillaume de Tonquédec, Florence Pernel, égaux à eux-mêmes. Lynn Renaud également. Fiorella Campanella, Mehdi Kerkouche, Brahim Zaibat. Et un film qui fait voilà qui fait du bien. Qui a des c'est un on peut le prendre comme un divertissement. On peut le prendre comme un moment de transmission, d'enseignement. C'est positif, ça fait du bien, même s'il y a la petite larmichette qui peut arriver à la fin, mais c'est celle qui me fait penser aussi à Rocky avec le... les applaudissements qui démarrent comme ça et qui montent. Voilà, il y a le dépassement de soi et on a envie, même si je vous dévoile la fin, on a envie que ça marche et que ça fonctionne. Quels sont vos projets, Ryan Bencetti, pour les mois qui viennent?
Pour les mois qui viennent, déjà, on va croiser les doigts pendant tout le mois que le film marche, parce que je t'avoue que j'ai très peur. Il sort demain et...
Ça va aller.
Non. Bah, moi, si tu veux, c'est le premier film où je suis en rôle principal, où je porte un peu le truc sur mes épaules. Donc, c'est un gros pari. Et puis, voilà, j'ai envie que le grand public... qui aime ou pas la danse aime le film, mais je veux que les professionnels aussi me disent j'ai bien aimé tes... Donc honnêtement, je te jure, j'ai une très très grosse pression.
Vous inquiétez pas, ça va le faire.
Et puis,
quelle envie alors?
Quelle envie, moi j'aimerais partir sur autre chose, peut-être du drame, des films d'action, des trucs un peu...
Mais toujours cinéma en tout cas.
Toujours cinéma, vraiment, j'essaye de rester dans le cinéma.
Théâtre, des sachets là ou à nouveau cinéma?
Théâtre, parce que je monte une pièce d'Agatha Christie, puis là je reviens un peu vers les classiques, si tout se passe bien dans l'année, je vais monter Wilde, Phédo, Ibsen, voilà, cette année. Ouais. Et puis du cinéma aussi, ouais, j'ai qu'une envie, c'est de retourner au cinéma. Donc j'écris un deuxième film. Ouais.
Merci mille fois en tout cas d'être venu.
Merci pour votre accueil.
Merci de l'accueil.
Demain, Benoît Jacquot et Tony Marshall seront nos invités. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand.